Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h. Ce soir, Nathalie Lévy, vous recevez Catherine Ney, Mickaël Darmon et Édouard Le Cerf, le directeur général adjoint du groupe BVA.
Bonsoir et bienvenue les grandes voix.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue à vous particulièrement parce que on va regarder de très près votre sondage. On va le décortiquer ce sondage à un peu plus de 4 semaines maintenant des élections municipales. Alors, il y a beaucoup d'enseignements évidemment à en tirer, vous allez nous expliquer. 66% d'abord des Français se disent intéressés par cette élection. Heureusement, j'allais dire.
Et oui, encore, c'est pas énorme.
C'est pas énorme.
C'est pas énorme, c'est pas énorme à peu près un mois d'un premier tour d'élection municipale, c'est pas énorme. Il faut se souvenir qu'en 2014, on avait vécu une baisse de la participation aux élections municipales, qui reste une des élections les plus participantes, mais on était passé sous les deux tiers, on était à 63,5, si mes souvenirs sont exacts, et donc avec quelques points de moins, et c'était quelque chose d'assez régulier. Donc 66%, ça montre un intérêt, je crois, pour, on va dire, les municipales, pas forcément pour la campagne. C'est-à-dire, c'est pas forcément pour l'aspect le plus politique. On est proche de son maire ou on est contre son maire. On est en tout cas impliqué sur la vie municipale, mais pour autant, est-ce que le jeu politique est vraiment encore ouvert? Pas complètement.
Mickaël Darmon et Catherine.
Catherine.
Non, moi je trouve ce sondage assez cohérent. Dans le fond, c'est à la fois les Français connaissent leur maire, l'aiment bien. Oui. S'il a bien géré, il serait plutôt prêt à, en grande majorité à lui redonner ses chances et même à revoter pour lui. Et on voit surtout ce qui est intéressant et là qui est tout à fait lié à la politique actuelle, c'est que l'impact de la réforme des retraites sur le scrutin. Là, ça va sûrement pénaliser fortement. Ça va conditionner, non?
Je serais un peu plus modéré. Parce que
moi, je l'ai lu comme ça.
Écoutez, c'est bien qu'on en discute. Moi, je trouve d'abord que les Français, vous avez raison, on est dans un contexte qui est très particulier. Le contexte des élections municipales, c'est un contexte où vous avez des élus sortants qui, en moyenne, alors il y a des plus et des moins naturellement sur les 36 000 communes de France, mais 70% et plus de satisfaction, c'est quelque chose que n'importe quelle politique aujourd'hui aimerait.
Moi, j'imaginais même pas que ça fasse autant, vous voyez.
Si, c'est vrai que c'est le niveau est assez haut, donc il y a une forme d'attachement, on part sur un contexte un peu particulier. Ensuite, ils nous disent qu'ils vont d'abord, alors ils se la racontent peut-être un tout petit peu les Français, en disant qu'ils vont d'abord voter localement,
voilà.
Que c'est ça qui est le plus important.
Permettez-moi de vous interrompre juste pour donner quelques chiffres, effectivement, et pour quand même être un tout petit peu précis. Ils sont 9 Français sur 10 aujourd'hui à dire que c'est l'avenir de leur commune en tête qui comptera le plus
locaux.
Au moment de glisser leur bulletin dans l'urne, effectivement, les enjeux locaux. Bah, là-dessus, il n'y a pas de surprise, à vrai dire, non?
Il n'y a pas de surprise. En général, on a tendance à entendre ça dans les sondages, dans les enquêtes, lorsqu'on interroge les Français sur, bien sûr, c'est une élection municipale, donc bien sûr, je vais voter localement. Ensuite, quand vous regardez l'histoire des élections municipales, vous apercevez, malgré tout, prenons simplement 2014, que c'est quand même l'occasion pour les Français, et donc pour quelques pourcentages, là je rejoins Catherine, de dire des choses, de dire que l'on est contre. Souvenez-vous, 2014, c'est la première claque, j'allais dire, pour le gouvernement pour François Hollande avec une victoire de la droite qui annonçait effectivement d'autres défaites, en tout cas de la gauche. Là où je serais plus mesuré, c'est que oui, sans doute pour un certain nombre, ils sont minoritaires, à peu près un quart de la population qui disent « oui, je vais me servir malgré tout de ce scrutin pour exprimer quelque chose et plutôt pour être contre ». Pour cette population-là, malgré tout, on peut se poser la question de comment ils vont faire. Comment est-ce que vous voulez faire pour sanctionner
le maire? Puisqu'il n'y a pas de sortant de maire.
On va dire en ne favorisant pas peut-être ceux qui se revendiquent le plus clairement, et tout ça n'est pas si clair que cela, de La République En Marche. Et à l'inverse, effectivement, en favorisant ceux qui se sont montrés en opposition autour notamment du sujet des retraites.
Mickaël Darmon, quelle lecture vous faites? Il y a plusieurs choses, plusieurs items, évidemment. On l'a dit, 9 Français sur 10 qui pensent local. Il y a aussi, on va le voir, les préoccupations premières, les impôts locaux qui arrivent largement en tête pour 32% des sondés. Voilà une des thématiques fortes, la sécurité qui arrive encore plus haut.
En fait, ce sont des thématiques locales qui ont toutes des résonances nationales. C'est-à-dire que sécurité, impôts locaux et environnement, eh bien, ce sont les trois sujets qui sont au sommet de l'agenda national. Et les Français qui, effectivement, savent adapter leur regard, leur intérêt et leur vote en fonction de la caractéristique de l'élection, du scrutin, on va dire, déclinent localement les préoccupations nationales. Donc, de ce point de vue-là, on est
dans les clous.
Et surtout, on est dans ce que, effectivement, Édouard commençait à expliquer, on est dans une résonance nationale d'un scrutin certes local, mais il est comme il est étalé sur l'ensemble du territoire et qui au fond il est aussi l'émanation de familles politiques et d'accords d'appareil qui vont dont on verra à quel point ils sont très actifs entre les deux tours. Bien évidemment, c'est une élection nationale et on a pris l'exemple de 2014. Si ça avait été uniquement une élection locale, alors pourquoi Jean-Marc Ayrault aurait-il été changé après la campagne et après le résultat des élections municipales?
On continue d'en parler de votre sondage, Édouard Le Serre, évidemment directeur général adjoint du groupe BVA, sur ces municipales dans moins d'un mois maintenant. On poursuit dans un instant. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h. Ce soir autour de vous, Nathalie Lévy, Catherine Ney, Mickaël Darmon et Édouard Le Serre, le directeur général adjoint du groupe BVA. Et toutes vos questions en direct, n'hésitez pas, 39-21. Ce sondage donc à moins d'un mois maintenant des municipales, on le disait, 66% des Français se disent intéressés par cette élection. Ils sont formels, c'est bien un maire qu'ils choisiront le 15 mars prochain. Alors je voudrais qu'on regarde un petit peu les préoccupations, les thématiques qui préoccupent le plus les Français pour ces municipales. Je le disais, la sécurité arrive en haut, hein, première place du podium avec 35%. Voilà ce que veulent les Français. Ils veulent que la situation dans leur commune soit améliorée au quotidien. Ensuite, les impôts locaux. Et puis ensuite, l'environnement thématique qui préoccupe de plus en plus. Hein, on l'a vu aux européennes, on le voit régulièrement. Eh bien, ça y est, ça s'installe véritablement.
Oui, clairement, par rapport à 2014, là, encore une fois, les préoccupations voient l'émergence. Quel que soit aujourd'hui le sujet sur lequel vous pouvez interroger les Français, c'est aujourd'hui quelque chose qui vient déborder, imbiber, infuser dans l'ensemble des préoccupations. Et là, que ça se retrouve au niveau local, c'est normal, d'une certaine manière, et c'est renforcé par le fait que pour les Français, j'allais dire, les élections municipales ou la municipalité, c'est, sans faire de mauvais jeu de mots, le circuit court de la politique. C'est-à-dire, c'est là où ça peut se passer, c'est là où on voit les choses, c'est là où les choses sont tangibles. Donc on se dit que oui, il peut y avoir des grandes mesures au niveau national, voire international, pour améliorer les choses, pour aider les populations à mieux comprendre quel est l'impact du réchauffement climatique, par exemple. Mais le niveau local, c'est le niveau très concret. C'est le niveau où on va trier, le niveau où on va faire attention, on va avoir des équipements qui seront plus respectueux. Donc, il est assez logique, en plus d'une préoccupation nationale, que localement, eh bien, ça arrive en troisième position parmi les préoccupations.
Quelle arme.
Et même politiquement, on verra dans quelle mesure cette préoccupation sociétale va avoir son effet sur les articulations des coalitions de gouvernement qui vont en fait tout simplement aussi donner le signal d'une forme de recomposition à gauche. Vous avez notamment des bastions communistes qui sont aujourd'hui menacés par des coalitions écologistes, socialistes, progressistes et autres qui certes ont tous des étiquettes locales mais sont l'émanation quand même de ces nouvelles articulations. Quand on entend ceux qui se préparent à éventuellement vouloir revenir pour 2022 du côté de la gauche, ils se disent ça sera autour forcément. De forces écologistes.
Ouais. Catherine Ney, il y a eu ces propos d'Emmanuel Macron, souvenez-vous, il y a quelques semaines, il disait « Je considère que ces élections municipales, ce n'est pas une élection nationale et je n'en tirerai pas de manière automatique des conséquences nationales. » Manière de se protéger, hein, évidemment, des résultats. Pour autant, on découvre qu'il n'y aura pas, a priori, de dégagisme qui va souffler sur ces élections, a priori.
Vous 71% dire, vous des Français. Vous demandez quoi, là, Nathalie?
Non, à la fois les candidats qui sont macronistes et qui y vont, comme Édouard Philippe, comme Gérald Darmanin, et puis à la fois cet ancrage qui n'existe pas pour les marcheurs.
Il y a des candidats marcheurs dans beaucoup de villes. Donc je ne suis pas sûre que... D'abord, je crois qu'ils ont eu beaucoup de mal à constituer des listes. Et je ne suis pas sûre qu'il remporte beaucoup de mairies, ça on le sait. Mais là, vous parliez tout à l'heure des Verts. Ce que je trouve très intéressant, c'est que maintenant qu'il n'y a plus, et surtout pour les municipales, il n'y a plus cette division droite-gauche, qu'est-ce qui fait sens aujourd'hui? C'est le Vert, c'est-à-dire c'est simplement l'écologie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet de conversation permanent. Et c'est quand, chaque jour, il y a soit une inondation dans le monde, un ouragan, des incendies. Et il y a une prise de conscience absolument générale que la planète brûle, que ça va mal. Donc, voyez les affiches, qu'elles soient de maires sortants, socialistes, de droite. Il y a du vert sur la couverture. D'ailleurs, Madame Hidalgo, ses affiches étaient roses. Et il y a 5 ans, aujourd'hui, elles sont vertes. D'ailleurs, un mauvais vert, je trouve. Mais bon, mais enfin, c'est pas un joli vert. Mais donc, c'est vert, c'est parce que c'est aujourd'hui la seule chose qui fait sens. Mais tout le monde est écologiste aujourd'hui. Tout le monde fait de la surenchère sur ce qu'il va pouvoir proposer, comme sans d'ailleurs chiffrer ses propositions en matière de... Tout le monde fait du vert. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, c'est une prise de conscience
tardive,
salutaire. Et je ne sais pas si elle sera efficace ou pas. Je ne sais pas, je l'espère.
Mais c'est une vraie question, c'est une question importante, parce qu'il y aura des élus qui auront été élus avec des programmes, on va dire, verdis ou plus ou moins verts. Mais c'est vrai que pour l'opinion, en général, le fait de pouvoir voir si concrètement des choses seront faites est un point important, parce qu'on parle de décrédibilisation de la politique par un manque de résultats ou par des annonces qui sont faites qui ne sont pas suivies de résultats. Si sur la thématique de l'environnement, où il y a une demande, on vient de le dire, extrêmement forte, un certain nombre d'édiles sont élus et derrière ne font rien, eh bien il va y avoir une vraie interrogation de nouveau sur le personnel politique, sur sa capacité à mettre en œuvre sur un sujet qui est aujourd'hui majeur, central, et dans la tête de tout le monde.
Alors, est-ce qu'un vent de dégagisme va souffler sur ces municipales ? J'y venais et on va y revenir. Donc, juste après une courte pause très rapide, et puis on se retrouve avec les grandes voix et les auditeurs.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec jusqu'à 19h le débat des grandes voix autour de vous. Ce soir, Nathalie Lévy, Mickaël Darmon, Catherine Ney et Édouard Le Cerf, le directeur général adjoint du groupe BVA.
Avec vous, on va évoquer bien entendu cette très bonne nouvelle, dixit Emmanuel Macron. Mais quand même, il y a des chiffres qui sont importants et qu'il faut mentionner. 8,1% à la fin 2019, la baisse du chômage est clairement enclenchée. Emmanuel Macron l'a dit, l'a redit. Muriel Pénicaud, qui était mon invité il y a un instant, pareil, vent d'optimisme. Peut-être même moins de 7% à la fin du quinquennat. Et Catherine Ney, là, il y a une vraie, vraie raison de se réjouir.
Oui, d'ailleurs, il y a une vraie raison de se réjouir. Et normalement, s'il n'y avait pas cette réforme des retraites qui fait peur à tout le monde, le gouvernement pourrait vraiment aller sur les estrades, parader,
triompher,
pour dire enfin
voilà,
triompher.
Oui.
C'est-à-dire que c'est un résultat extraordinaire, surtout de dire que 7%, ça n'est pas impossible. Alors, ça n'est pas impossible si... c'est vrai que la production industrielle a repris, de plus en plus les jeunes créent eux-mêmes leurs emplois. C'est quelque chose qui est assez nouveau. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que l'épidémie chinoise, ou quand même la Chine, qui est l'usine du monde, qui organise la plus grande opération d'isolement jamais réalisée dans l'histoire de la planète, où tout est à l'arrêt, où les industries automobiles n'ont pas les pièces détachées dont elles ont besoin, on risque même d'avoir pénurie de médicaments. Vous voyez, au jour d'aujourd'hui, on se réjouit et on est quand même dans un...
Il y a toujours un mais.
Mais parce qu'il y a incertitude, c'est-à-dire cette épidémie s'arrête quand ? Quand est-ce que la Chine reprend ?
Eh oui, parce que c'est quand même 2 millions de Chinois qui viennent nous voir en France chaque année, qui dépensent plus de 4 milliards d'euros. Alors effectivement, si ça dure, ça va commencer à être problématique, Édouard Le Cerf. Ce bon chiffre, ne faut-il pas y voir quand même une deuxième lecture ?
Si, moi, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Je vais plaindre les politiques pour une fois. Je vais les plaindre parce que lorsque vous avez un chômage qui est très haut, ça en fait la principale préoccupation des Français. Et donc, vous avez une forme de pression continue, permanente, nourrie par les sondages, d'ailleurs, qui donne régulièrement ce chiffre-là. La principale préoccupation des Français, c'est le chômage. Le chômage commence à baisser, la préoccupation baisse. Et donc, ça en fait quelque chose où la victoire semble un peu moins belle, un peu moins importante. Donc, c'est un peu terrible pour les hommes politiques d'avoir cette chose-là en permanence. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat, lorsqu'on prend... Il y a l'environnement, on vient d'en parler, mais le pouvoir d'achat est la préoccupation principale. Donc, maintenant, on attend des résultats sur le pouvoir d'achat. Si vous arrivez en disant « Regardez le travail que j'ai fait sur le chômage, c'est formidable », les gens diront « Oui, mais le pouvoir d'achat ».
Bien sûr. Oui, c'est ça. De toute façon, c'est systématique, Mickaël Darmon. C'est comme ça. C'est toujours été comme ça.
En fait, le problème, c'est que là aussi, où c'est un piège, il faut faire attention. Et d'ailleurs, c'est assez dans l'esprit de l'équipe autour d'Emmanuel Macron et de Macron lui-même. C'est ce qu'ils appellent le syndrome Jospin. Attention à penser que la focalisation uniquement sur un résultat économique et le recul du chômage suffirait à changer la donne.
Gommer le reste.
Jospin a été balayé parce qu'il n'a pas perçu l'importance des questions sécuritaires, identitaires et d'organisation politique. Donc de ce point de vue-là, il faut aussi faire attention à ce que, mais je pense qu'ils en ont conscience au sommet de l'État, d'après ce que je comprends, mais quand même, le fait que le chômage s'améliore ne dit pas forcément que la colère des Français va s'apaiser. Ce sera paradoxal, mais c'est comme ça.
D'accord. La colère des Français, effectivement, c'est compliqué parce que ce qui se télescope encore une fois avec ce chômage, c'est toujours cette réforme des retraites, avec polémique sur polémique, avec la difficulté d'en sortir, avec ces deux élus La République En Marche de la Commission des Finances qui posent 16 questions dont on n'a pas les réponses.
Parce qu'ils expriment des doutes, ils n'ont pas compris.
Bien sûr, sur des milliards d'euros.
Sur des milliards d'euros, mais c'est aussi toute la difficulté pour les députés En Marche que le président a reçus pour la première fois à l'Élysée. C'est que sur le terrain, vous voyez, après les Gilets jaunes, où ils ont vraiment reçu des critiques, enfin, ceux qui soutenaient les Gilets jaunes, comme les commerçants qui perdaient dans leur chiffre d'affaires. Mais là, sur la réforme des retraites, ils sont incapables d'apporter des précisions. Non, on leur pose des questions.
Ah, le gouvernement.
Oui,
le gouvernement.
Oui, mais les députés qui sont interrogés sur le terrain par leurs électeurs.
Voilà. Mais en l'occurrence, c'est très important ce qui s'est passé avec cette lettre. Parce qu'en fait, elle émane de deux experts
qui
trépignent à l'idée que Macron ait dit « vous êtes des amateurs ». Et ils disent « nous ne sommes pas des amateurs, nous sommes des experts en commission de finances ». Et ils ont dressé la liste en envoyant en courrier au Premier ministre, les 16 questions qui demandent clarification pour pouvoir faire que cette loi puisse être faisable et tout simplement applicable.
Sinon,
il y a un processus de réflexion actuellement sur une partie du groupe qui consisterait à minima à s'abstenir et peut-être voter contre. Ah oui. Et là, on pourrait déboucher sur un processus de scission si jamais ça s'avère. Donc, ça n'est pas anodin ce qui s'est passé. Bien évidemment, le groupe et Édouard Philippe, qui est très en colère depuis hier, essaye d'atténuer et d'étouffer en disant c'est un travail technique des députés. Ouais. Mais en réalité, ils savent qu'il y a un enjeu politique majeur.
Émilie Cariou et Laurent Saint-Martin, pour les citer, ces deux...
Qui est la WIP, Émilie Cariou, qui est une des plus grandes experts fiscalistes
Et ce qui est intéressant, c'est que le groupe est assez divisé.
Absolument.
Parce qu'il y a ceux qui soutiennent tout à fait le Premier ministre et qui lui savent gré d'avoir eu toujours cette idée fixe et budgétaire, combien ça va coûter. Et ça, c'était une obsession. Vous vous souvenez quand Laurent Berger disait « c'est un intrus dans la discussion, l'équilibre budgétaire ». Bon, c'est incroyable. Bon. Donc, ils lui disent, voilà, ils posent les vraies questions parce que tout ça, combien ça coûte. Et les autres qui trouvent que, vraiment, l'autre jour, en réunion de groupe, alors que Macron était très attaqué, le Premier ministre n'a pas réagi. Il a soutenu Muriel Pénicaud sur la fameuse histoire, vous savez,
du congé parental.
Mais lorsque, pour la première fois, des députés En Marche ont critiqué directement le président de la République, eh bien le Premier ministre n'a pas dit « mais comment, je vous interdis ?» Il n'a pas bougé.
Absolument, mais Gilles Lejeune non plus d'ailleurs.
Oui.
Il y a une faiblesse, on va dire, de l'ingénierie, entre guillemets, du groupe parlementaire qui est reconnu à tous les étages de l'État. La difficulté étant aujourd'hui tout simplement de le remobiliser parce que cette réforme des retraites...
Stanislas Guérini aussi qui a dit « c'est très bien, c'est justifié, il faut poser les questions, on pose toutes les questions,
on va conclure
Edouard Le Cerf. »
Ils n'ont pas d'autre moyen.
Un point simplement sur ce sujet, presque en se dégageant du sujet des retraites. Lorsque des experts en viennent à se contredire, c'est toujours très très mauvais parce que naturellement, ça donne l'idée qu'on ne sait plus où est la vérité et quelle que soit la parole, quel que soit l'émetteur de cette parole aujourd'hui, qu'est-ce qui est crédible ? C'est un vrai problème. Au-delà de ce sujet des retraites, quand des experts reconnus finissent par se contredire, sont-ils encore des experts ? En tout cas, aux yeux des Français, ça devient très compliqué.
Ils contredisent la parole de l'exécutif.
Oui, qui est censé être une parole d'expertise.
Absolument.
Merci beaucoup, en tout cas, à tous les trois, Mickaël Darmon, Édouard Le Cerf, Catherine Ney. Merci à vous, les grandes voix du jeu.